Reportage, débat, interview, le magazine du samedi, le rendez-vous hebdomadaire de la rédaction de Cocktail FM, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce magazine du samedi spécial Festival du Fantastique, un premier volet que nous consacrerons au cinéma. Deuxième volet la semaine prochaine consacré à la littérature et au salon du livre Le Grimoire. Magazine que j'ai eu le plaisir de réaliser et de vous co-présenter avec Pauline Jacquot-Kielard.
Bonjour Jean-Christophe et on commence par le commencement, le lever de rideau.
La cérémonie va bientôt commencer. Veuillez prendre place. Et veillez à éteindre vos téléphones portables.
Linton Pham, bonjour. Voilà, vous êtes membre du jury de long métrage. J'aimerais savoir quels sont vos critères pour juger les films.
Je pense que je suis une spectatrice comme une autre. J'ai envie d'être emportée et de plus voir le côté technique du film, quoi. Vraiment d'être émue, de pleurer, d'avoir peur, d'être emportée.
Okay. I like you. It's good. Thank you. It is my pleasure to declare the 17th Fantasy Film Festival open.
Quand on m'a demandé de venir à ce festival, j'ai dit oh là là.
Ligne d'âme femme.
Je sais pas, j'y connais rien quoi. Et puis j'ai vu le film qui avait été primé l'année dernière, Morse, que j'avais vu donc et que j'avais adoré. Et je me suis dit, bon, déjà, ça sent bon, il doit y avoir une très bonne programmation. Allons-y, découvrons des choses. Et je suis arrivée et je vois que même dans le fantastique, il y a beaucoup de genres. Parce que de ce qu'on a vu en ouverture jusqu'à maintenant, c'est des films complètement différents. En plus, j'ai rarement, il neige, c'est super d'être là, les gens sont très 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 sympathiques, donc ça sent très bon pour l'instant.
Mélanie Bernier, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre perception de l'univers du cinéma de genre et du fantastique en particulier ?
Alors d'abord, c'est un genre que moi je ne connais pas très bien. Par contre, j'ai des amis qui sont assez assidus à ce cinéma-là et qui m'expliquent un petit peu les codes, les références, comment ça peut marcher, etc. Moi je crois que je vais plus faire appel à ce que je peux ressentir, quel que soit, si que ça me fasse peur ou que ça m'emmène dans un univers ou que ça m'angoisse. Voilà, je pense que ce qui va être le plus important pour moi, c'est que je ressente quelque chose devant cinéma et pas que je me cache les yeux pendant tout le film.
Alors donc finalement, vous allez représenter la grande majorité du public, c'est-à-dire les néophytes.
Oui, mais en même temps, c'est assez drôle parce que hier il y a eu un film qui s'appelait La Horde qui a été projeté et moi je crois que j'ai eu énormément de chance de le voir dans cette salle-là parce qu'il y avait vraiment des grands fans du cinéma fantastique et donc c'était super parce que c'est vraiment eux qui ont mis l'ambiance, enfin pas que, mais ils ont vraiment contribué à l'ambiance du film, ça applaudissait. Ça a hurlé, c'était génial parce que qu'il y avait des codes que moi je n'avais pas accès. Moi je regarde ce film, je fais oulala, ça se tue partout, il y a des zombies, ça se mange, etc. Alors que pour d'autres qui connaissent ce cinéma là, c'est autre chose que ça raconte. Et je trouve que c'est très intéressant. Il y a deux lectures dans le cinéma fantastique.
Vous direz qu'ils en font des tonnes avec les bruitages. Eh bien, c'est un peu comme Messieurs Dahan et Schulman. Ils en font des tonnes avec les poncifs et les clichés. Et c'est tout à fait volontaire. Leur film La Horde, premier film de zombies français, est un petit bijou du genre. La critique, et particulièrement un certain Yannick Dahan, est unanime. La Horde plante son décor dans une banlieue qui par elle-même est déjà fantastique. Mais y aurait-il un message subliminal ?
Non, pas forcément subliminal, mais ce qu'on voulait faire, c'est tout en faisant un film qu'on essayait de faire populaire et divertissant pour le maximum de gens, on n'oubliait pas qu'on faisait un film de zombies et que par essence ce film de zombies doit être un minimum subversif. C'est un film qui est aussi fait en réaction à un certain cinéma français dont on a un peu marre de voir et nous on avait envie d'offrir des alternatives aux gens et en faisant un film d'action horrifique on s'est dit, faut jouer avec des codes, faut s'amuser avec des poncifs, d'où l'idée effectivement de commencer le film avec des espèces de caricatures de gangsters, de caricatures de flics et jouer sur ça, c'est-à-dire faire que le spectateur s'identifie à certains personnages, puis finalement faire basculer ces personnages et que le spectateur se dise « Oh là là, il avait l'air sympa lui, mais en fait c'est une ordure » et qu'inversement, celui qui est une ordure s'avère être beaucoup plus humain que ce qu'on croyait. Donc on avait vraiment envie de jouer avec tout ça. Quant au contexte, même si c'était une raison au départ, l'idée de faire un film à la facture pas française, mais dans un contexte spécifiquement français. Pour nous, la banlieue française était vraiment quelque chose de spécifiquement français. C'est pas une banlieue qu'on retrouve ailleurs. Donc du coup, en faisant ça, on savait pertinemment qu'on allait jouer avec tout plein de connotations sur la banlieue. Et encore une fois, on a voulu avoir quelque chose de directement fantastique, de pas politiquement correct, et de laisser passer par l'image des petits trucs sur la banlieue un petit peu subversifs sans asséner ça comme un message aux gens. Donc à la limite, j'ai envie de te dire, c'est pas à nous d'expliquer quel est le sens, c'est au spectateur de le construire comme il veut.
Alors en raccourci, la banlieue en France, c'est un peu au-delà du réel.
Surtout que notre banlieue est un peu fantastique, même dans la façon de le montrer, quoi.
Bon, subversif et insolent, plutôt amusant de la part d'un ancien critique de cinéma, justement, Monsieur Dahan. Et s'il s'agit du premier film zombie français, c'est aussi une première en termes de mode de financement, puisqu'il s'agit de la contribution d'internautes sous la bannière d'une petite société Motion Sponsor. 470 personnes, 47 000 euros collectés.
Les types voulaient lancer un site au moment où commençaient un petit peu, tu sais, ces sites musicaux où on finançait des jeunes auteurs et qui sont devenus célèbres comme Grégoire et tout ça. Donc eux, leur proposition a été originale. Nous, on n'avait pas spécialement besoin de leur argent. A priori, on avait notre budget de film, on allait le faire tranquille. Ils nous ont proposé ça. On s'est dit, super, pourquoi pas tenter l'expérience. Et puis finalement, ils s'en sont occupés. Et puis des gens ont mis de l'argent sur le film. Et au final, ça nous a bien servi en post-production. Donc ça a été une affaire bénéfique, je pense, pour tout le monde, en fait.
Un prix public déjà acquis, au moins les gens qui ont participé. Je crois qu'il y a eu une projection de presse auquel les internautes ont assisté. Ça a été carrément un vrai retour, puisque là, c'est des passionnés qui ont donné des sous.
Mais au-delà de ça, le film a bénéficié de beaucoup de l'aide de fans et de geeks de la France entière. Parce que tu sais, pour notre film, on avait besoin d'une séquence de foule avec plus de 300 zombies. Et on n'avait pas vraiment les moyens d'avoir autant de figurants et autant de cascadeurs que ça. Donc on a fait un appel sur Internet. On a dit, voilà, on fait un premier film de zombies français. On a besoin de gens qui viennent nous aider. Alors si vous voulez nous aider à faire ce film, venez faire les zombies. On a eu plus de 4000 réponses. 300 zombies sont venus. Et donc voilà, c'était la première aide. Ensuite, il y a eu les gens effectivement qui ont financé via Motion Sponsor. Et on a effectivement fait une projection spéciale pour eux, pour les gens qui étaient venus faire les zombies gracieusement pour nous aider à faire ce film et les investisseurs de Motion Sponsor. Et on a pu avoir effectivement un vrai feedback, un vrai retour de gens que ça intéresse, de fans, quoi.
Tout de même, le financement alternatif, ça a quelque chose d'intéressant, non ?
C'est bien vrai, Jean-Christophe, mais est-ce que le sponsoring par le spectateur est voué à se généraliser et à prendre du poids dans la production cinématographique ? En tout cas, il y en a deux qui y croient, ce sont les cofondateurs de Motion Sponsor. Rencontre.
Rafik Benamou, cofondateur du site Motion Sponsor.
Éric Bessalam, aussi cofondateur du site Motion Sponsor.
C'est un mode de financement qui, on va dire, pointe un petit peu le bout de son nez. Comment c'est venu ?
Alors, c'est venu il y a maintenant 2007. On a vu l'émergence de ces sites qui invitaient les internautes à participer au financement, notamment d'un club de foot avec le site anglais My Football Club. Et ça nous a donné l'idée, on s'est dit, tiens, est-ce que ce modèle s'appliquerait pas au cinéma, au monde du cinéma ? Donc on a commencé à travailler sur le sujet. On a notamment eu l'occasion d'aller à Cannes en 2008 pour présenter le modèle aux professionnels, distributeurs, réalisateurs, producteurs. On en a tiré des enseignements. Et donc on a affiné notre modèle et le site est sorti en 2009. À travers ce site, on invite les internautes à soutenir à la fois la production et la distribution de films indépendants.
Il faut dire qu'Afid et Eric n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils viennent tous les deux du monde des médias et de la communication. Et puis, ça n'est pas tout, Pauline.
Leur site sert aussi à créer un effet de bouche à oreille, disons le buzz en bon français.
Le magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Coffee machine in an office, so I'm gonna go somewhere cozy to get me a come over and tell you about it. There's a she-wolf in the closet.
Magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Qui êtes-vous ?
Xavier Sayanoff, alors auteur-réalisateur du documentaire Viande d'origine française, co-réalisé avec monsieur Tristan Schulman. Qui est ici.
Bonjour.
Bonjour. C'est très bizarre. C'est même aussi bizarre. Bonjour. Alors oui, bah donc on a réalisé un documentaire qui parle du cinéma d'horreur français, de la nouvelle vague du cinéma d'horreur français, qui a été diffusé hier hors compétition. C'est un documentaire qui a été diffusé sur Canal+ au mois de novembre. Et on a eu l'énorme privilège d'être sélectionné ici à Gérardmer et de pouvoir projeter notre film sur grand écran avec du vrai public. Donc on a fait ça hier et c'était super.
Bah, parlez-nous un petit peu de cet univers fantastique et horrifique à la française.
Il y a eu évidemment les yeux sur visage, La Belle et la Bête. Il y a eu du fantastique français dans les années 50, de toute façon, mais c'était toujours des coups d'essai qui étaient souvent faits par des auteurs qui venaient d'autres univers. Ensuite, il y a eu une période d'essai dans les 70 avec des films bizarres, mais qu'on a tous oublié. Il y a eu Les Jean Rodin, il y a eu Le Baby Blood de Alain Robach, et tout ça, c'était des petits films d'horreur français isolés. Et puis, depuis les années 2000, Canal+ a besoin d'un quota de films français dans sa grille, et ils doivent diffuser des films le samedi soir. Ils ne peuvent pas passer des films d'auteur, donc ils ont commencé à commander à des productions des films d'horreur à petit budget français. Et donc, ça a créé une espèce de nouvelle vague qui a commencé avec Haute Tension, Promenons dans les bois, ces films-là. Et aujourd'hui, il y a une quinzaine, vingtaine de films. Tire, À l'intérieur, Vignane, La Horde, La Meute, bientôt, qu'est-ce que j'oublie, Frontières. Tous ces films-là qui sont, cette nouvelle vague d'horreur à la française qui est en train de chercher son identité, qui est un peu coincée entre le fait d'être des films de fans qui, donc, du coup, s'inspirent beaucoup de films américains, etc. Et qui cherche son identité, alors beaucoup dans le trash. C'est-à-dire que les films d'horreur français sont très très trash, très très premier degré, très très violent. Martyr par exemple c'est vachement exporté grâce à ça, parce que le film est sans concession, est extrêmement dur et beaucoup plus dur et beaucoup moins rigolo qu'un Hostel ou qu'un Saut. Et voilà, donc il y a une nouvelle vague de films de genre français qui est en train de chercher son identité, qui se construit doucement et qui pour l'instant a des problèmes d'entrée, de rentabilité. On n'est pas prophète dans notre pays, c'est ça, c'est que les films existent, les films se vendent, donc les films sont viables commercialement. C'est une vraie branche du cinéma français qui fonctionne en termes d'argent, mais qui fonctionne pas du tout en termes d'accueil public et critique, parce que tout le monde s'en fout, quoi, parce que les films sortent dans très peu de salles, très peu d'écrans, personne ne les voit, les critiques les cassent. Bon, c'est un cinéma qui n'a pas encore sa légitimité en France, parmi tant d'autres, mais comme plein de genres qui n'existent pas dans le cinéma français, comme la science-fiction par exemple, qu'on peut très difficilement faire en France. En France, en film de genre, il n'y a que le polar qui est installé, qui est pépère. Tous les autres genres, c'est de l'expérimentation à chaque fois. On part de zéro, quoi. Il faut construire une identité que les Américains ont construite depuis le muet, quoi. Donc voilà.
Faut passer de l'art et essai à l'art et décès.
Alors, j'ai jamais pensé à ce jeu de mots. Oui, mais c'est vrai qu'ils sont très films d'auteur, les films d'horreur français. Ils ne fonctionnent pas sur le même public, mais ils fonctionnent avec un peu les mêmes systèmes que le cinéma d'auteur. Ils sont dans la même case. Il n'y a pas de côté série B, il n'y a pas de côté film d'exploitation. Ça n'existe pas, ce système-là, en France, les films d'exploitation. Donc, si on doit ranger les films d'horreur dans une case, ils sont quand même plus dans une dynamique de production qui ressemble à celle du cinéma d'auteur français ou du cinéma intello, etc. Qui ont quand même plus d'argent. Il faut savoir que les conneries de Christophe Honoré ou Arnaud Desplechin coûtent quand même à peu près 7 fois le prix d'un film comme Martyr, qui demande des vrais effets spéciaux, qui demande de la vraie technique. Et beaucoup de films français qui marchent, côté Ramador, sont réalisés sans la moindre technique. On est à la limite du reportage, hein, et ont quand même des budgets qui sont 5 à 6 fois plus confortables que les films d'horreur français. C'est là qu'il y a une forme d'injustice que les réalisateurs ressentent. Ils ne comprennent pas pourquoi, pour raconter des histoires de bourgeois du 7e arrondissement qui ont des peines de cœur pendant qu'ils rédigent leur thèse, on peut avoir 8 millions d'euros, alors que pour raconter des histoires un peu plus branches, un peu plus fun, un peu plus poétiques, on a un grand maximum 2 millions d'euros, si on a vraiment de la chance. Quoi.
Eh bien, parlons-en d'une ère de la guerre, l'argent. Et revenons-en à la question dont on parlait dans la première partie du magazine, c'est-à-dire le financement d'une partie du film par le spectateur. Un exemple de La Horde, dont une partie a été financée par des internautes et dont 300 figurants ont été retenus sur 4000 candidatures. Mais le public n'est-il déjà pas acquis ? Bref, le buzz, toujours le buzz.
Oui et non, c'est-à-dire que déjà, le problème, c'est que le public de base, c'est 100 000 personnes. À peu près. Donc finalement, ils les avaient à la base. Ils les avaient comme tous les films, ils sont acquis à la base. Ce public est acquis. Donc finalement, ça change pas grand-chose quoi. À ce niveau-là, on verra sur le reste. Eux, ils ont la force de pouvoir attirer éventuellement un public de banlieue. J'espère que ça va arriver.
Le financement alternatif, c'est un truc qu'on doit créer en France qui manque aujourd'hui parce que le financement très rigide en France, c'est, on en parle dans notre documentaire. En gros, c'est Canal+, maintenant Orange, les aides publiques, les distributeurs, et éventuellement les chaînes hertziennes, mais pas dans le cas d'un film d'horreur parce qu'il n'est pas diffusable sur TF1 en France 2 qui financent les films. Donc c'est assez limité. Comme guichet par rapport aux États-Unis où l'argent peut venir de fonds privés et tout. Donc là, Motion Sponsor, c'est une espèce d'idée participative qui est un peu bizarre encore. Moi, je trouve qu'il y a encore un truc bizarre de prendre. Parce que, moi, sur l'art, tu vois, ce qui est très particulier, c'est que du coup, ils font payer des fans qui gagnent peut-être pas forcément des milliers d'euros par mois. Et on sait que, de la même manière qu'ils sont capables d'acheter des figurines dégueulasses de prédateurs de 2 mètres de haut, ils vont filer de l'argent un peu inconsciemment et tout. Moi, je trouve ça bizarre, surtout que le film n'en avait pas vraiment besoin finalement. C'est une espèce d'expérience. Mais le financement alternatif en France, c'est encore une grande question à résoudre parce que le système de la chaîne de télé hertzienne obligatoire pour avoir un gros budget bloque la création. Parce que ce qui passe sur les chaînes de télé françaises, c'est du cinéma qui doit ressembler au téléfilm. Et donc d'où Bienvenue chez les Ch'tis, ou Les Choristes ou LOL, qui sont des films qui sont filmés comme des téléfilms, qui ont la même esthétique, le même découpage, le même rythme, la même musique que Louis la Brocante. Bon, on est très très peu éloigné. C'est pas vraiment des films de cinéma parce que la télé en a besoin à 20h50. Et que c'est leur première. L'argent, les 7 millions que file TF1, c'est pour que le film passe à 20h50 en exclusivité chez eux. Donc, c'est des films qui sont formatés pour ne choquer personne à 20h50 sur TF1. Donc, ça limite quand même pas mal la création. C'est pas que la violence, mais ça limite tout. Ça veut dire qu'on peut plus montrer des seins d'une fille. Parce qu'il faut passer à 20h50 sur TF1. On peut plus montrer des gens qui fument, des gens qui disent des gros mots. Et ça limite vachement. Ça limite vachement la ferveur des films français, qu'on est obligé de faire des trucs qui sont poétiquement corrects et qui rentrent bien dans la case.
Oula, dangereusement subversif aussi les réalisateurs de viande d'origine française. Heureusement que leur reportage ne portait pas sur les OGM.
Et c'est dommage.
Magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Tristan Schulman et Xavier Saïanoff, les réalisateurs de cet excellent documentaire qui vient d'origine française, hautement subversif et même provocateur, n'en sont pas à leur coup d'essai puisqu'ils avaient aussi réalisé il y a quelques années un documentaire sur les geeks. Pour autant, ce ne sont pas des spécialistes du fantastique. Alors pourquoi avoir fait ce choix éditorial ?
C'est une commande de Canal+. En fait, nous, on avait fait un premier documentaire qui s'appelait Suck My Geek, qui était sur un film sur les geeks qui avait fait parler de lui, qui avait bien marché et tout. Et après, bah, Canal+ nous a commandé, comme il voulait faire, il diffusait Martyr, il cherchait Martyr et Eden Lake, et il cherchait pour une nuit du frisson, la nuit des chocottes, à caler un documentaire. Donc ils nous ont fait une commande à laquelle on a répondu. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et nous après, on a utilisé cette commande pour raconter des trucs plus personnels qui nous touchaient. C'était comment parler à tous les gens qui, comme nous, sont amoureux du cinéma, fous amoureux, et ne se reconnaissent pas en cinéma français, ils comprennent pas pourquoi on a un cinéma français si morne, si, avec si peu de variété, avec si peu de diversité, et on s'amuse si peu, quoi. Et on est beaucoup aimé le cinéma et à se dire, mais putain, on aura toujours voir un film américain ou un film français pour le même prix devant la salle. Et c'est énervant, on n'a pas envie, parce qu'on est un pays extrêmement riche culturellement et tout, on n'a pas envie de devoir se limiter à ça. Et donc on s'est servi de ce documentaire pour parler de ce ressenti-là, qu'on est beaucoup à avoir.
Donc, chez vous, c'est le ton un peu subversif, c'est pas subliminal dans le docu.
Non, mais ça, c'est pareil, c'est parce que nous, on est des rigolos. Mais ça va avec, on pouvait pas faire un documentaire politiquement correct en parlant du cinéma d'horreur. Et ces sujets-là, ils sont rarement abordés. On en parle beaucoup dans les salons, mais il n'y a pas encore eu beaucoup de documentaires cinéma qui abordaient ce problème-là. Alors, comment fonctionne le cinéma français pour être si étriqué, quoi. Donc, ça n'a pas encore vraiment existé, donc on va profiter pour le faire. Et nos documentaires ne changeront rien, mais ça fait plaisir. Je pense que c'est un peu défouloir. On a ressenti hier la projection ici, c'est qu'il y a un côté défouloir, c'est que les gens applaudissaient quand on disait du mal de Bienvenue chez les Ch'tis, parce qu'on est quand même des millions à se dire mais arrête, mais Bienvenue chez les Ch'tis, c'est nul.
Et voilà pour le massacre à la tronçonneuse des Ch'tis et des choristes. Mais y a-t-il des films non fantastiques qui trouvent grâce aux yeux de Monsieur Schulman et Saïanoff ?
Pas fantastique, il y a les Audiard, on peut dire, de Batman quand c'est à Rôter ou un prophète, les films de Audiard, cool.
Ultra fan de 99 ans.
Voilà, pour nous, des Épines et Cavernes, c'est quand on voit Louise Michel, on est sorti, on disait on est fiers d'être français. Cette année, moi, il y a aussi les Lascar que j'ai adoré. Faut en parler, Lascar, bon, il y a plein de gens qui l'ont vu, mais c'est génial. Et moi, les Beaux Gosses, que j'adore.
Les Beaux Gosses.
Moi, j'adorais les Beaux Gosses. Et voilà. Et tous ces films-là, on a une année là où on voit quand même que les choses bougent quand même. Il y a un petit truc qui bouge. Un prophète, est comme un film relativement de genre, est considéré comme le film français le plus important de l'année. Les Lascar est un gros succès pour un film d'animation française qui existait. Bon, il y a eu Kirikou, mais un film d'animation adulte. Il y a un marché qui n'existe même pas du tout en France, quoi. Tout d'un coup, voilà, il y a les Lascar. Je pense que la mort de Claude Berry est très symbolique. La vieille génération sont en train de passer la main, et maintenant il y a des jeunes producteurs de 40 ans. Manuel Alduy, qui est à Canal+ et qui est l'homme qui est responsable de tous les films d'horreur français, c'est un mec à 40, je sais pas quel âge, à 40 ans. C'est un jeune mec donc qui aime le cinéma, qui a été élevé comme nous au cinéma des années 80, à Spielberg, à McTiernan et compagnie. Il y a un renouvellement de génération qui fait que je pense que ces prochaines années, on va commencer à voir le cinéma français s'ouvrir un peu. C'est pas encore gagné, mais ça va aller mieux.
Bon, à propos de Audiard, c'est de là je les qualifierais bien, de tonton flingueur.
Mais il y a un thème que nous n'avons pas abordé durant ce magazine, celui du court-métrage.
Rencontre avec le réalisateur d'un court très court, 6 minutes, pour lequel nous avons eu un coup de cœur, Pierre Ferrière et son film « Toute ma vie ». Un film interprété par Vincent De Zagna et oui, et Catherine Merino.
C'est un troisième court-métrage. J'étais en compétition en 96 avec mon deuxième cours. Il y a eu un long break entre le deuxième et le troisième. Et j'étais déjà venu à Gérardmer, où je n'avais pas été primé.
Et toute ma vie n'a pas vraiment l'esthétique d'un film fantastique, pour tout dire. Il a une construction très particulière.
C'est une rencontre, en fait. Le pitch, rapidement, c'est une jeune femme qui rencontre un homme dans la rue, par hasard, et qui est éminemment sympathique, et qui lui, la connaît par cœur, il se rappelle le souvenir, et elle n'arrive pas du tout à le remettre. Et malgré tout, elle cherche à savoir mais d'où elle le connaît, où l'a-t-elle déjà rencontré. C'est vrai que le film commence comme une rencontre un petit peu d'une comédie romantique, puisque ça se passe sur le pont Alexandre III à Paris. Et en fait, le film va vous faire découvrir un autre aspect de la situation que l'on ne détecte pas du tout au départ.
Cette idée, elle pourrait être très largement développé, on pourrait vraiment aller très loin. Est-ce que c'est un petit peu dans cet esprit-là que vous présentez ce cours ?
Eh bien, le film n'a pas de suite prévue en lui. En revanche, je suis en train de terminer d'écrire un long métrage qui s'appelle « Ma vie est un film », à l'intérieur duquel on verra le court métrage « Toute ma vie ». On va reprendre la thématique du film, on va reprendre les personnages. Les personnages du court métrage ne seront pas les personnages principaux du long, mais ils interviendront.
L'écriture donc de ce long qui suit ce cours, qui n'en est pas la suite, mais qui l'intègre, en est où en termes de financeurs, de recherche, et est-ce que c'est un chemin de croix, un parcours du combattant?
Mes premiers cours, je les ai autoproduits. Sur ce cours-là, il y a un vrai producteur, il y a deux vrais producteurs, Stéphane Capu et Alain Grand-Gérard, qui sont des producteurs de pub et de long métrage. Sur le long, aujourd'hui on en est à terminer l'écriture du long, toute l'histoire est écrite, je suis en train de rédiger le scénario. La recherche des financements va démarrer à peu près dans 2-3 mois, au moment de Cannes, pour avoir espérer un tournage en 2011. L'idée, en tout cas, c'est d'être pendant la période de vie. Un court-métrage, bon, on peut vivre toute sa vie, mais il vit essentiellement pendant 18 mois environ, pendant la tournée des festivals. Et l'idée, justement, c'est d'avoir de pouvoir faire lire ce long-métrage, là, maintenant, tout de suite, puis-je dire, pendant qu'il va dans d'autres grands festivals outre Gérardmer, puisque le film a déjà eu deux prix du public en France. Il part à Santa Barbara, à New York, en Chine, à Athènes, à Porto, à Lille. Si on a la chance que ça suit ce même rythme sur toute l'année, on aura beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de contacts, beaucoup de regards, beaucoup de projections sur ce film, et donc beaucoup d'opportunités d'en parler, et donc de parler du long. Voilà, c'est ça l'idée, vraiment, par rapport au long métrage pour l'instant.
Vive le buzz.
Exactement, vive le buzz et vive l'internet.
Nous voilà au terme de ce magazine, un premier volet consacré au grand écran, mais le fantastique revient la semaine prochaine avec un numéro spécial Grimoire, le Festival du Livre. Vous saurez tout sur la Ligue de l'Imaginaire.
Une ligue constituée d'auteurs plutôt prestigieux, comme un certain Bernard Werber ou encore Henri Leuvenbruck, Chatham, Bowen et consorts. Ils sont 12 en tout. Mais l'un d'entre eux manquait au grimoire, Bernard Werber. Mystérieuse disparition que nous tenterons d'élucider, entre autres grâce à Harry Mackenzie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans un instant, d'autres informations nationales et internationales. Celle-là, prochain rendez-vous avec l'information locale, le journal présenté par Jean-Yves Didier à 12h30. Passez un très bon week-end.